Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour un nouveau numéro du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. L'hiver semble s'être quasi volatilisé un mois avant son terme, comme en témoignent les températures enregistrées en ce mois de février et les arbres déjà bien fleuris que l'on peut observer un peu partout. Vous ne serez donc pas dépaysés si l'on se projette au printemps en seconde partie d'émission pour parler d'un événement qui a lieu durant la première quinzaine d'avril. D'ici là, nous aurons parlé de l'actualité des jours passés et de ceux à venir avec ceux qui ont bien voulu participer à cette émission. Tout d'abord Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Elle est accompagnée de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est en leur compagnie que je reçois l'invité de ce numéro, Arnaud Penet, chef du chœur de chambre de Lourdes et président du Festival de musique sacrée de Lourdes, dont la 53e édition se tient du 4 au 13 avril dans la cité mariale des Hautes-Pyrénées et aux alentours. Voilà donc l'événement printanier qui va occuper la seconde partie de cette émission. En attendant, voici la première, celle consacrée à l'actualité de la semaine dernière, Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Nous vous l'avions annoncé il y a deux semaines, la soprano Annick Massis a donné un récital vendredi dernier, 14 février, au Théâtre du Capitole. Elle y a en fait uniquement donné la voix humaine de Francis Poulenc, composée sur le texte de la pièce éponyme de son ami Jean Cocteau. Voilà une œuvre qu'on a rarement l'occasion d'entendre, en tout cas à Toulouse. Anne-Marie, vous étiez vendredi soir au Théâtre du Capitole. Comment s'est passée votre soirée et cette expérience qu'est toujours la voix humaine, qu'elle soit chantée ou parlée d'ailleurs? Comment s'en est tirée Annick Massis? Quel est votre avis?
Personnellement, je pense qu'elle s'en est tirée fort bien, parce qu'elle l'a fait avec un naturel, un sens de l'expression qui n'est jamais outré, avec une voix qui est toujours maîtrisée. Et elle le fait avec, je ne dirais pas élégance, mais avec beaucoup de charme, sans appuyer, sans en faire une tragédie trop marquée, une certaine distance. Et je trouve qu'elle le fait très très bien, tout en étant pleine d'émotion, on est ému. Et on l'écoute avec d'autant plus d'intérêt qu'elle appuie sa voix, qu'elle sait souligner les mots quand il le faut, mais sans plus. Et elle est accompagnée au piano par Antoine Paloc. Et je crois que c'était une très belle soirée, puisque cette œuvre est rarement donnée, même à Toulouse. Je ne sais pas si on l'avait déjà entendue au Capitole.
On en avait parlé, alors je crois que Serge Chauzy, vous y avez assisté, mais avec orchestre peut-être.
Avec orchestre chaque fois, oui. Oui,
oui, tandis que là, c'était avec piano.
Ça a été donné, non, il n'y a pas très longtemps. Et puis ça a été donné il y a très longtemps alors, par Denise Duval, la créatrice du rôle.
Oui. Oui,
et Georges Prêtre, hein, qui était venu le diriger, mais
c'était, oui, la création, siècle, c'était ça, quoi, c'était Denis Duval et Georges Prêtre.
Oui, oui, exactement. Oui.
Là, c'était avec piano. Oui. Et Annick Massis m'a dit qu'elle-même, elle était ravie de le faire avec piano parce qu'elle se sentait plus libre. Et donc, ils ont formé un duo avec le piano qui fonctionnait très bien. Et je trouve qu'elle a su trouver le ton qui convient à cette œuvre, qu'il ne faut pas surcharger de pathos, comme on dit.
Tomber dans le pathos assez facilement.
Oui, tandis que là, vraiment, elle était avec son téléphone qui était un téléphone à l'ancienne, quand même, minimum, enfin avec un fil, ce qu'on n'a plus, elle n'a pas cherché à avoir un téléphone portable, donc elle est restée avec dans l'idée de ce téléphone, et c'était très très bien fait, et je crois que le public il y a eu de nombreux rappels, elle a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, et que c'est vrai qu'Annick Massis a confirmé qu'elle était très à l'aise dans des répertoires très divers, dont la mélodie, dont cette œuvre inclassable on peut dire, et puis à l'opéra bien sûr, où on l'a vu assez souvent.
Bah, elle avait laissé un très bon souvenir dans le rôle de Lucrezia Borgia, oui, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, au Théâtre du Capitole, déjà. Chanteuse très appréciée, oui.
Tout à fait. Je crois d'ailleurs que c'était sa première Lucrezia.
Oui, c'était sa prise de rôle.
Oui, c'était une prise de rôle. C'est vrai qu'elle ne dédaigne pas de prendre des risques. Elle sort de certains répertoires plus connus à l'opéra. Elle le fait avec beaucoup de talent et surtout pas de surcharge de quoi que ce soit. Et avec une voix qui suit très bien ce qu'elle veut lui commander, disons.
Est-ce que le public a suivi lui aussi ce qu'il y avait un petit peu de monde? Parce que c'est pas une œuvre grand public.
C'était pas la foule, mais le public était là, oui, a suivi avec beaucoup d'attention. Et ensuite, elle a eu un accueil très, très enthousiaste, des rappels. Les gens, c'est vrai, actuellement, il y a peu finalement de récital au Théâtre du Capitole, parce que c'est un cercle vicieux. On dit qu'il n'y a pas foule, que c'est un répertoire un peu plus difficile pour le grand public. Mais en fait, le public perd l'habitude aussi d'y aller au Capitole pour écouter ces récitals. Donc, c'était pas plein. Mais c'était une bonne, un peu plus d'une demi-sable.
Oui, c'est un oral. On va écouter maintenant la toute fin de la voix humaine de Francis Poulenc, chantée bien sûr par Annick Massis. Un extrait de la voix humaine de Francis Poulenc, la version avec orchestre bien sûr, mais interprétée par Annick Massis, qu'il a donné en récital au Théâtre du Capitole vendredi dernier, et c'était avec le pianiste Antoine Paloc. Le lendemain, samedi 15 février, changement de décor et d'ambiance avec le concert de l'Orchestre National du Capitole à la Lograin. Même si l'on restait dans la musique française et seulement la musique française, le soliste invité à cette soirée était Renaud Capuçon, inutile de le présenter, et le chef lui aussi était un invité, un français encore, puisqu'après la défection de Tougan Sokiev, souffrant ce soir-là, c'est Pascal Roffet qui a dirigé l'ensemble symphonique toulousain. Nous étions tous les trois présents à ce concert. Anne-Marie et Serge, on était impatients d'entendre ce programme sous-titré « Poésie française ». Est-ce que vous avez apprécié le programme et la façon dont il a été interprété?
Ah, tout à fait. Pour ma part, j'ai trouvé excellent, à la fois d'une part, la direction de Pascal Roffet, qui a quand même été prévenu peu de temps avant. Mais Pascal Roffet est un chef d'expérience, hein. N'oublions pas qu'il est le directeur musical de l'Orchestre National des Pays de la Loire. Et qu'on l'a déjà vu à Toulouse, il avait déjà dirigé l'orchestre dans les années, en 2012 je crois, il était déjà venu à la tête de l'Orchestre du Capitole à la Lograin, et puis c'est lui quand même qui a dirigé l'opéra Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas dans sa dernière, c'était d'ailleurs je crois sa première exécution de cette œuvre à Toulouse, donc c'est vraiment un excellent chef qui a vraiment su tirer des couleurs de l'orchestre tout ce qu'il fallait pour ces trois œuvres, donc de musique française évidemment. Alors bon, la musique française et l'orchestre du Capitole, quand même...
C'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire, puisqu'on sait très bien que cette grande tradition a été initiée, on peut dire, par Michel Plasson au cours de son long séjour à Toulouse.
Grand défenseur de la musique française et de certains compositeurs en particulier
dans la musique française. Oui, absolument. Il dirigeait souvent, d'ailleurs, la symphonie de Chausson, qui a fait l'objet de la dernière partie. Mais toute la première partie était avec le soliste, donc on a eu droit à deux œuvres concertantes jouées par le grand violoniste que l'on connaît, Renaud Capuçon, hein, et qui vraiment a fait honneur à sa réputation, puisque d'abord il a un son magnifique, je trouve un son un peu doré, un peu très rond, très beau, très pur, bon, une virtuosité qu'il ne met pas au premier plan, mais qui est authentique, hein, donc...
Qui est nécessaire dans une des œuvres qui a été jouée, d'ailleurs.
Ah, ben oui, surtout la deuxième, oui. Donc la deuxième dont on peut parler d'abord, qui est donc Digane de Ravel, puisque c'est le violoniste qui commence à Capella dans cette œuvre, hein. Hein. Puis alors là, c'est vraiment une chose totalement ahurissante sur le plan technique. Hein. Et puis là, Renaud Capuçon est tout à fait à l'aise, hein, que ce soit les doubles cordes, les 100 harmoniques, les pizzicati de la main gauche, il fait ça avec beaucoup de sûreté. Et puis surtout, il donne une certaine nostalgie à cette œuvre, hein, qui, dans la partie initiale, il y a une nostalgie qu'on n'entend pas toujours. Là, lui, il est un peu tendre là-dedans, et puis ensuite, il s'investit davantage avec l'orchestre, donc c'était vraiment une très belle exécution. Mais auparavant, il y avait eu, bon, ce qui pourrait être un concerto qui ne dit pas son nom, c'est le poème pour violon et orchestre de Chausson. Ernest Chausson, ce fameux compositeur mort bêtement d'un accident de vélo à 44
oui,
ans. Ce
qui dans son jardin. Mais oui.
Dans son propre jardin.
Terrible.
Oui. Et donc, ça aussi, c'était très beau, parce que ça porte bien son nom. C'est une musique extrêmement poétique, et qu'il a composé d'ailleurs à partir de la nouvelle de Tourguenieff, le chant de l'amour triomphant. Hein, donc, là, il a fait ça de manière aussi très poétique, très beau, de manière vocale, on pourrait dire. Hein, c'était très lyrique, la manière dont il jouait, et donc avec beaucoup de nuances, très très bien, vraiment très bien. Et puis, à la suite de ces deux œuvres concertantes, on a eu droit à un bis, alors que...
On est resté en France.
Oui, 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 tout à fait, puisqu'on est allé sur les brisées de Jules Massenet avec la fameuse méditation de Thaïs que l'on entend dans l'opéra de même nom, l'opéra Thaïs. Donc, alors là, c'est une œuvre tout à fait traditionnelle pour le violon. Et là, c'était accompagné uniquement à la harpe. Et je dois dire qu'avec une harpiste excellente, qui a aussi bien dans le Zigan de Ravel, puisque la harpe a un rôle important dans le Zigan, que dans cette méditation de Thaïs. Et cette harpiste s'appelle Nabila Chajaï, donc je crois qu'il faut la remercier, la féliciter.
Personnellement, c'est la première fois que je l'entendais à Toulouse, je ne sais pas si oui, c'est votre cas.
Oui, moi aussi, je crois, oui. Et donc, c'était vraiment extrêmement beau, très très beau. La deuxième partie, c'était la fameuse symphonie en si bémol de Chausson, toujours... très coloré, une espèce de création d'accompagnement du renouveau symphonique, ce qu'on appelait le renouveau symphonique français, dont César Franck était évidemment un des épigones, hein, avec quand même une influence germanique, hein, il faut quand même le dire.
Il y a à la fois l'influence de César Franck, qui fut le professeur, le maître
de Chausson,
et puis évidemment de Wagner, qui était, bon, à l'époque en tout cas, son modèle, on peut le dire.
Bien sûr.
Pas seulement pour Chausson d'ailleurs.
Oui. Mais donc, c'est un peu dans ce sens que Pascal Ronfait l'a dirigé, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'intensité.
C'est très lyrique aussi.
Un lyrisme très chaleureux, vraiment très très bien. Et puis avec, quand même, il faut rappeler que dans le final, il y a une petite évocation de la 9e de Beethoven, puisque le final procède au rappel des thèmes des mouvements précédents.
Oui.
Donc, un peu comme l'avait fait Beethoven dans le final de sa 9e. Donc, c'est des couleurs bien françaises, mais quand même dans le sillage de la grande musique germanique. Donc, vraiment une très belle soirée.
Et la direction de Pascal Ronfait m'a beaucoup plu. Moi aussi.
Très chaleureuse, très intense, très bien.
Anne-Marie.
Oui, ben je suis du même avis. Cette belle soirée de musique française, c'est vrai, avec en plus un violoniste qui a pu confirmer l'étendue de son talent, qui est de ne pas être simplement un virtuose avide de démonstrations techniques, mais qui sait faire chanter son violon, évoquer la tendresse, évoquer beaucoup d'émotions. Et ces deux œuvres qui étaient le poème de Chausson et de Zigan ont été vraiment très très bien assorties. Après, avec la méditation de Thaïs en bis, on a été gâtés pour la démonstration, plus que la démonstration, pour l'aspect violonistique du concert. Et la symphonie de Chausson qu'on a quand même entendue depuis Michel Plasson, mais on a toujours plaisir à la réentendre, puisque comme je le disais la semaine dernière, elle a été le premier enregistrement de l'orchestre du Capitole chez EMI, donc c'est une œuvre un petit peu emblématique de l'orchestre qu'il a contribué à faire redécouvrir, puisqu'on ne la jouait pas du tout. Maintenant, je ne sais pas
si on la joue beaucoup non plus de nos jours. Hein.
Non.
Mais il faut rappeler quand même qu'elle a été jouée en 2017 sous la direction de
Tougantsoukev. Hein. Oui.
Donc, Tougantsoukev y est attaché à cette œuvre.
Oui, l'orchestre l'a gardée. Et Tugan aussi.
Oui,
et Tougantsoukev aussi. Donc, elle est restée un petit peu heureusement à l'affiche grâce à l'Orchestre du Capitole. Et c'est une œuvre, c'est vrai, plutôt marquée par l'influence de Wagner à une époque où la musique française se voulait toute clarté, transparence, quelque chose qui est tout à fait d'un style qui est différent de celui de ce qu'on a accroché touché à la musique française, parce que la France n'a pas un style si... Enfin, n'a pas marqué la musique classique avec un style très éloigné des grands compositeurs romantiques. Si Ravel, c'est tout de même à part, Debussy aussi, c'est vrai. Peut-être une plus grande attention portée au timbre, à la transparence du discours. Mais Chausson, qui lui se revendiquait plutôt de Wagner, est un musicien qu'on a plaisir à redécouvrir. Et Pascal Roffet est un chef français qui, je crois, a une bonne réputation, qui est quand même de directeur musical de l'Orchestre des Pays de Loire, et que le Capitole a plaisir à réinviter, puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises.
Oui, il n'est pas impossible qu'on le revoie dans les années qui viennent. La méditation de Thaïs de Jules Massenet, c'est vraiment une petite merveille. On ne va pas se priver d'en écouter une version, et autant que faire se peut, on va écouter une version jouée par Renaud Capuçon. La déchirante méditation de Thaïs de Jules Massenet, interprétée par Renaud Capuçon. C'était le bis du concert qu'il a donné avec l'Orchestre National du Capitole le 15 février à la Lograin. Nous terminons là-dessus cette première partie d'émission. Une petite pause de quelques secondes et l'on se retrouve avec Anne-Marie, Serge et Arnaud Penet. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et donc avec Arnaud Penet, chef du chœur de chambre de Lourdes, président du Festival de musique sacrée de Lourdes, dont la 53e édition va avoir lieu du 4 au 13 avril prochain. 53e édition, Arnaud Penet. Alors ça veut dire que le festival a dû être créé vers 67, 68, vous allez nous préciser les choses, ce qui en fait sans doute un des festivals de musique les plus anciens de France. Qui en étaient les fondateurs au fait? Est-ce qu'il a toujours eu la formule actuelle, c'est-à-dire un festival de musique sacrée et uniquement de musique sacrée?
Un festival de musique sacrée créé à Lourdes par Kurt Redel, le chef d'orchestre et flûtiste, et Georges Loustalot, qui a terminé sa carrière comme enseignant au conservatoire de Tarbes.
Donc des créateurs prestigieux, des bonnes fées, s'étaient penchés sur le berceau de ce festival. Exactement. Et donc c'était déjà de la musique sacrée,
stricto sensu. De la musique sacrée, avec la spécificité de ce festival et le carnet d'adresses de Kurt Redel, qui fait que la première année, le festival accueille Victoria de Los Angeles.
Ouh, dites donc.
Donc, une affiche dans les années de Kurt Redel absolument incroyable.
Mais Kurt Redel, est-ce que ce n'était pas le chef de l'orchestre de Stuttgart?
Il me semble.
De chambre de Stuttgart.
Il me semble, oui. Hein,
qu'il a dirigé pas mal de concerts et fait d'enregistrements avec cet orchestre.
Tout à fait.
Alors, puisqu'on parle des grandes têtes d'affiche qu'a connu le festival durant ses plus de 50 ans d'existence, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui vous viennent à l'esprit?
Alors, incontestablement, la découverte d'un jeune homme de 17 ans, il y a maintenant, on ne se voit pas vieillir, je pense plus de 20 ans, Philippe Jarouski.
Ah ben en effet.
Qui chantait...
Tout jeune, oui.
Tout
oui.
jeune, qui oui. chantait avec Jean-Claude Malgloire. Et Jean-Claude nous disait au petit déjeuner avec Jean-Paul Lécaux, qui était le directeur artistique du moment, profitez de l'instant, il ne sera plus abordable dans quelques années.
Il ne s'était pas trompé. Il n'est jamais revenu, Jarouski, depuis ?
Il n'est jamais revenu au festival. Il a été programmé dans les sanctuaires par la scène nationale, mais pas dans le cadre du festival.
Et est-ce qu'il y en a d'autres, à part Jarouski, comme ça, qui ont pu marquer le festival ?
Oh, bah, écoutez, ma mémoire, je parle de ma mémoire. Bien sûr, Hervé Niquet, on a reçu Hervé Niquet. J'ai été très marqué l'année dernière par les talents lyriques et Christophe Rousset
sont
venus nous donner un concert absolument éblouissant sur les leçons des ténèbres, mais tant d'autres.
Les grands de la musique sacrée en France, et pas seulement sans doute.
Oui, l'étranger a été représenté grandement, c'est vrai.
Alors, il faut qu'on précise une chose, parce que c'est le Festival de musique sacrée de Lourdes, mais les concerts n'ont pas lieu qu'à Lourdes, et même loin de là, en tout cas depuis quelques années, peut-être d'ailleurs sous votre influence et par votre désir. Donc, à part à Lourdes, où est-ce qu'on peut entendre des concerts de ce très beau festival?
Alors, depuis très longtemps, le festival se conclut à l'abbatiale de Saint-Savin.
Ça, c'est une tradition.
C'est la tradition. J'ai pour habitude de dire jamais 203. Après 3, il n'y a plus de maxime, donc c'est la tradition. Donc c'est une abbatiale cistercienne avec une acoustique incroyable qui est à une quinzaine de kilomètres de Lourdes, au-dessus d'Argelès-Gazost, où le village est réputé pour son abbatiale et sa table, avec un excellentissime restaurant.
Ce qui ne gâche rien.
N'est-ce pas? Et nous avons souhaité élargir le territoire du festival, c'est un festival itinérant, à l'ensemble de la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, qui est la nouvelle réalité territoriale depuis la mise en œuvre de la loi NOTRe.
Voilà, sachant que les deux cités sont séparées de quoi, 20-25 kilomètres à peu près, c'est
à
ça?
À peine.
À peine, même une vingtaine de kilomètres. Oui. Et d'ailleurs, entre les deux, il y a l'aéroport de Tarbes-Lourdes, qui est aussi un des lieux de concert. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau cette année ou si ça a déjà été le cas. Je pense que
eh bien,
oui. Hein.
Écoutez, nous sommes dans la troisième année, donc proche de la tradition.
Ah, voilà. Ça va devenir maintenant la tradition d'ouvrir dans le hall de l'aéroport. On va en reparler de tout ça. Alors, il faut noter aussi qu'il y a ce qu'on peut appeler un in et un off dans ce festival, mais qu'ils n'ont pas lieu en même temps. Donc, vous commencez par le off et après, vous enchaînez par la programmation dans ce qu'on va appeler le in.
Voilà, on est sur un temps de la Semaine Sainte et... Les concerts ont lieu en semaine, donc il est difficile de programmer plusieurs concerts dans la journée. On le fait comme cette année lorsque la Semaine Sainte tombe la semaine des vacances.
Les vacances scolaires.
Les vacances scolaires.
Et oui.
Donc, on a décidé de faire ce pré-festival pour nous mettre en appétit, qui a pour vocation de valoriser les pratiques amateurs et de faire rayonner le patrimoine culturel du département, pas qu'architectural d'ailleurs, on pourra en parler.
On va en parler bien sûr. Alors, on va noter tout de même que cette année, le festival est sous-titré « Que ma voix demeure ». Donc, il va y avoir beaucoup de musique vocale, évidemment, mais que les gens ne se trompent pas, ce n'est pas la tradition. Là, cette année, la voix est beaucoup représentée, mais ce n'est pas toujours le cas.
La voix est beaucoup représentée car le festival a souhaité rendre hommage au travail d'un Toulousain, Rolandas Muelica, qui dirige l'ensemble Antifona, mais qui est surtout professeur au Conservatoire de Toulouse et qui fête les 20 ans de la création de la classe de chant choral et la classe de direction de chœur, dont 4 membres du festival sont issus et diplômés.
Donc c'était une bonne raison, effectivement. Donc le festival commence par le off. Et la soirée d'ouverture a lieu le samedi 4 avril à 19h dans le hall de départ de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. C'est la formation que vous dirigez, ce chœur de chambre de Lourdes qui va ouvrir le festival avec la petite messe solennelle de Rossini. Ce sera une petite messe solennelle gourmande, ce qui n'aurait sans doute pas déplu à Rossini. Vous allez nous en dire plus sur l'aspect gourmand, mais d'abord vous allez nous en dire plus sur cet ensemble vocal que vous avez sans doute aussi fondé, que vous dirigez, le chœur de chambre de Lourdes. Combien de chanteurs le constituent et quel est son répertoire?
Alors, nous sommes 20 chanteurs et nous fêtons cette année nos 10 ans. Donc c'est une année...
10 ans et 20 ans. Bon.
Nous allons célébrer l'amitié et les anniversaires, les jubilés. Voilà. Et cet ensemble vocal, nous l'avons créé avec quelques amis professeurs de musique dans le département des Hautes-Pyrénées, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et aujourd'hui, nous sommes 20 chanteurs. Alors, c'est un ensemble vocal amateur, puisque aucun des musiciens professionnels qui le constituent n'est chanteur de métier.
Amateur sans doute très engagé, et vous travaillez dans des conditions sans doute de cœur professionnel, c'est-à-dire qu'il faut être assidu, on est présent en répétition.
On essaie en tout cas.
Voilà, autant que faire se peut. Oui. Il y a peut-être même des week-ends de travail.
De temps en temps, oui, de temps en temps. Un week-end de travail par mois, à vrai dire.
Et alors, vous faites des concerts, combien de concerts par an ?
5, 6, 7 concerts, ça dépend des programmes. Avec une spécificité qui m'est chère au cœur, c'est qu'on chante la grande musique romantique en petit effectif pour rendre l'intimité du compositeur, l'intimité de la musique.
Donc c'est la musique romantique, le cœur du répertoire ?
Essentiellement.
Pour cette formation.
Un petit peu de musique ancienne avec une première... approche, si j'ose dire, où nous viendrons chanter à Toulouse fin juin dans le cadre de la célébration des 20 ans de la classe, où il y aura une journée de fête du chant choral avec, j'ai cru comprendre, une grosse trentaine de concerts dans Toulouse.
Dans Toulouse. Pas seulement à Saint-Pierre-des-Cuisines, qui est la salle du conservatoire, pour ceux qui ne le sauraient pas.
Voilà, dans Toulouse. Et nous viendrons chanter probablement, je m'avance sans grand risque, une première à Toulouse, une messe de Requiem d'un compositeur totalement inconnu, qui s'appelle Bonaventura Rubino, qui était maître de chapelle à Palerme au XVIIe siècle.
Voilà, on va apprendre des choses. Bon, alors, on parlait de musique romantique, là, donc c'est la petite messe solennelle de Rossini que vous allez interpréter pour cette soirée d'ouverture, le 4 avril. C'est une œuvre que vous avez déjà chantée en concert
C'est à vrai dire...
Une signature pour vous ?
Oui, c'est notre premier programme.
Ah ben voilà, c'est vraiment une œuvre signature.
C'est notre premier programme et on l'a chanté une bonne vingtaine de fois. Dans l'effectif que réclame Rossini sur son manuscrit, à savoir 12 chanteurs des trois sexes, hommes, femmes, castrats, répartis 8 pour le chœur, 4 pour les solistes.
Donc vous avez des castrats dans l'effectif ?
Non, plus de castrats depuis fort longtemps.
Oui, depuis la fin du 19e.
Exactement.
On va en écouter un extrait de cette si jolie petite messe solennelle de Gioacchino Rossini, le Kyrie.
Thank you.
Le Kyrie de la petite messe solennelle de Gioachino Rossini, interprété ici par le chœur Accentus de Laurence Equilbet, mais c'est le chœur de chambre de Lourdes qui va la donner, sous la direction d'Arnaud Penet, samedi 4 avril à 19h, dans le hall de départ de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Ce sera donc une soirée gourmande, une petite messe gourmande. Alors pourquoi gourmande? Expliquez-nous comment ça va se passer. Mettez-nous l'eau à la bouche.
Eh bien, nous allons recréer, si j'ose dire, les circonstances de la création. En 1864, le commanditaire de la messe avait demandé à Rossini un entracte pour régaler ses convives. Et donc Rossini a marqué sur son manuscrit, après le Gloria, entracte. Et le soir de la création, on a servi le repas aux 250 invités.
Et ben voilà, il n'y a qu'à copier.
Alors je ne promets pas par contre que ça sera le même repas.
Oui, mais ça sera sans doute très bon.
Peut-être un tourne-dos.
Combien de personnes pouvez-vous accueillir là, pour ce concert dans le hall de l'aéroport? Il y a une jauge précise?
Alors, l'année dernière, on a accueilli 600 personnes pour le Requiem de Mozart, joué par l'orchestre du conservatoire de Tarbes, dans la version revisitée de Pierre-Henri Dutronc. Donc, il y aura 600 places assises cette année.
Voilà, donc n'hésitez pas à venir, il y a de la place. Et il y aura de très bonnes choses à manger. Donc, ouverture de la partie off du Festival de Lourdes 2020, le 4 avril. Pour les autres jours du off, les 5, 6 et 7 avril, quel programme vous nous proposez, Arnaud Penet?
La maîtrise de Toulouse, dirigée par Marc Hofstadt, qui nous fait l'immense honneur de venir. Ce sont les vacances scolaires. Ils font un effort tout particulier pour venir nous régaler. Je les remercie et je remercie Marc pour sa délicatesse. Un programme nuit et jour, donc plutôt musique contemporaine, avec une création de Marc en fin de concert. Donc je suis spécialement heureux d'accueillir la maîtrise et ce programme. Et puis nuit et jour, cette semaine sainte, ça nous fait certainement penser qu'on passe de la ténèbre à la lumière.
À la lumière, effectivement. Donc, ce sera le 5 avril à 17h à la collégiale d'Ibos. Je vais juste préciser, on a reçu Marc Hofstadt dans cette émission. Et vraiment, on en parlait avec Serge Chosy avant le début de cette émission. Il fait un travail remarquable avec son effectif de la maîtrise de Toulouse au conservatoire.
La manière dont il sait dynamiser ses jeunes enfants, c'est merveilleux.
Et donc, le lendemain, le 6 avril à 20h30, alors là, ça va se passer au Centre Albert Camus de Séméac. Alors dites-nous, ça se trouve, Séméac, c'est l'aire urbaine de Tarbes, un peu au sud-est?
Complètement. Voilà, on va passer de l'ouest à l'est de Tarbes. Et donc, nous accueillerons quatre chœurs du conservatoire de Tarbes.
Ils portent le nom d'Henri Duparc.
Henri Duparc, qui a résidé à Tarbes.
Oui, qui est mort à Mont-de-Marsan, mais qui a résidé à Tarbes.
Voilà, juste à côté du conservatoire, à quelques dizaines de mètres. Et donc, c'est Corinne Arnaud qui fait un travail incroyable avec ses jeunes et ses adolescents et son chœur de femmes, plus les ensembles de musique traditionnelle qui viendront nous chanter une itinérance, un spectacle dont j'ai un peu de mal à vous parler, à vrai dire, parce qu'il est en création actuellement.
Oui, puis alors attention, parce que c'est pas que musical, c'est musical, chorégraphique et théâtral.
Exactement.
Et c'est une création totale, hein, apparemment.
Une création totale.
Et puis on termine donc le off à Lourdes, bien sûr, le 7 avril. Mais alors là, ça va être un peu la fête un peu partout, parce qu'il y aura des animations gratuites et ça commence à partir de 14h.
Exactement. On a créé trois animations. La première pour les jeunes du quartier de Lofite et du quartier de Landaré. Donc on travaille avec le centre social L'Espace Jean Zé, où on va proposer un atelier de chant choral d'une heure, trois quarts d'heure si les enfants n'ont pas la capacité de concentration suffisante. Une heure et demie, si on tient une heure et demie, voilà quelque chose de très ouvert, avec restitution devant les parents. Ça nous paraissait intéressant que les enfants puissent se produire aussi dans le cadre de ce festival, modestement avec ce qu'ils auront appris, ce qu'ils auront fait. Et on va travailler sur un extrait, en tout cas, d'une œuvre d'une compositrice, Graziane Rinzi, qui a écrit une...
Oui, contemporaine.
Une œuvre pour la maîtrise qui a été créée il y a quelques années à la maîtrise de Radio France, qui s'appelle Amstramgram.
Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est à 14h.
14h.
Quartier de Lofite.
Quartier de Lofite, c'est à Lourdes.
À 16h30, à la médiathèque de Lourdes, il y a encore des animations.
L'ensemble Antiphona, qui nous proposera une répétition publique. Voilà, on va lire son journal, on va chercher un livre, une vidéo, un disque.
Et en passant,
on prend un petit bout de cette répétition.
Et puis ça se termine à 20h30, fin de soirée. Cantera du festival à la brasserie Les Sans-Culottes.
Alors, les canteras, ce sont des lieux de chant spontané, où l'on chante le pays des Pyrénées. Alors à la fois en bigourdan, enfin en gascon, et aussi en langue française, langue vulgaire bien évidemment. Et donc c'est Pascal Comon qui enseigne maintenant au Conservatoire de Toulouse, qui a longtemps enseigné au Conservatoire de Tarbes la musique traditionnelle, qui vient avec ses acolytes pour nous animer cette cantère. Donc c'est vraiment un moment de chant spontané où chacun devient acteur et musicien du festival.
Ça, dans les Hautes-Pyrénées, je pense qu'on connaît et qu'on appréciera. Pour illustrer la programmation du HOF et rendre hommage au passage au travail formidable réalisé par Marc Hopstadt à la direction de la maîtrise de Toulouse, nous allons écouter une pièce chantée par le jeune ensemble vocal toulousain. Il s'agit de Soleil, une œuvre de Patrick Burgan, compositeur contemporain, lui aussi établi en région toulousaine. Soleil, pièce vocale de Patrick Burgan, composée sur un poème de Marc Blanchet et interprétée par la maîtrise de Toulouse dirigée par Marc Hopstadt, il va de soi. Alors c'est une des pièces qui sera au programme de ce concert nuit et jour du 5 avril à 17h à la collégiale d'Ibos. Vous retrouverez donc l'ensemble toulousain à cette occasion avec ce programme nuit et jour. Nous allons passer maintenant au programme du festival IN qui va lui se dérouler du mercredi 8 au lundi 13 avril, essentiellement à Lourdes et à ses alentours. Ça commence avec un ensemble qu'on connaît bien à Toulouse et pour cause puisqu'il est établi, vous l'avez cité tout à l'heure, l'ensemble Antifona fondé et dirigé par Rolandas Mouleika. Il est en concert mercredi 8 avril à 20h30 à la Basilique de l'Immaculée Conception du Sanctuaire en compagnie de l'atelier Oratorio avec un programme intitulé Miserere Mei Deus. Je vais vous demander de nous présenter un peu Antifona et puis Oratorio qui en fait est un atelier qui fait partie d'Antifona, un atelier à géométrie variable, atelier vocal.
Donc l'ensemble Antifona, c'est un ensemble de jeunes artistes professionnels qui, pour la plupart, sont les élèves de Rolandas. De jeunes avec beaucoup de talent, une dynamique incroyable, des voix d'une fraîcheur et d'une candeur exceptionnelles. Et je pense qu'autour de ce psaume 50, qui là aussi colle à l'actualité liturgique du jour, puisque c'est le psaume que l'on chante le mercredi saint à l'office du mercredi saint, et nous avons construit ce programme autour de ce que représente le Miserere d'Allegri, le célébrissime Miserere d'Allegri, qui ne laisse personne indifférent, quelques 400 ans après son écriture, hein. Là aussi, une légende autour de cette pièce qui était soigneusement conservée, jalousement conservée par le pape au Vatican, à la chapelle Sixtine. Et c'est le jeune Mozart, à 14 ans, qui, de passage à Rome, le retranscrit de mémoire, dit-on.
Oui, parce l'anecdote est célèbre. Mais...
Il paraît qu'on fouillait les gens à l'entrée pour qu'ils n'aient pas de papier à musique, pour qu'ils ne recopient pas ce qu'ils entendent. Et Mozart n'avait pas besoin de ce papier à musique.
Et voilà. Et donc, Oratorio, c'est une espèce d'excroissance d'Antifona créée par Rolandas Mouleika.
Tout à fait. Alors, ce sont les...
Et qui viennent en renfort lorsque c'est nécessaire pour certaines œuvres.
Exactement, c'est le réservoir
le vivier,
de le vivier et le réservoir de choristes qui permet de constituer un chœur d'une trentaine de chanteurs.
Alors, Rolandas Mouleika, ça a une personnalité parce que bon, son nom le laisse entendre pour ceux qui ne connaissent pas. Il est d'origine lituanienne. Il est passé par le CNSM de Paris. Et puis, il a été l'élève de Sergiu Celibidac. Ça, je crois que ça a beaucoup compté pour lui. Et puis, Antifona, c'est aussi une structure qui veut faire vivre le patrimoine musical régional et les chefs-d'œuvre oubliés de nos compositeurs de la Grande Occitanie.
Tout à fait. Avec un travail incroyable de restitution et de musicologie sur ces compositeurs toulousains, pour la plupart, mais aussi du Rouergue.
Antifona et Oratorio, on va les retrouver le lendemain, le 9 avril à 20h30, à l'église Saint-Jacques de Côte-d'Oussan. Alors, il faut nous expliquer où se trouve ce village, parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas.
Côte-d'Oussan, c'est un tout petit village qui s'appelle exactement...
C'est Ourdis, Côte-d'Oussan.
Ourdis, Côte-d'Oussan, c'est la réunion de deux villages dans les années 60, où vivent 50 personnes à l'année.
50 âmes, comme on dit.
50 âmes à l'année. Et ce village a la spécificité d'avoir une des quatre églises du diocèse classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du chemin de Saint-Jacques.
Ah oui.
Donc nous avons créé ce programme avec Rolandas, qu'on a appelé Pellegrinus, et un sous-titre, un voyage musical sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc du grégorien à la musique du XVIIIe siècle.
On va trouver quel compositeur ?
On va trouver Clérambeau, un Miserere de Clérambeau, Lorenzani, Charpentier, Monteverdi, le manuscrit de Montpellier, du grégorien...
Alors, il faut qu'on écoute Antifona, bien sûr, et pour vous donner un aperçu des recherches que fait Rolandas Ouleika et des musiques qu'il fait revivre avec son ensemble vocal, on va écouter un extrait de leur CD « L'Occitanie baroque des pénitents noirs ». Un extrait du CD L'Occitanie baroque des pénitents noirs enregistré par l'ensemble Antifona qui est donc en concert avec l'atelier Oratorio les mercredis 8 et jeudi 9 avril à 20h30 lors de ce 53e festival de Lourdes. Entre-temps, jeudi 9 à 17h, vous avez programmé le très connu, très apprécié du grand public Jean-François Zigel au Palais des Congrès de Lourdes et là, il va se livrer à un de ses exercices favoris, l'improvisation au piano lors d'un ciné-concert. Quel film va être projeté ce jour-là, Arnaud Penet ? C'est lui qui l'a choisi, sans doute, d'ailleurs.
Oui. Alors, Jean-François nous avait demandé des propositions. On lui a fait une proposition de 3 films et il est revenu vers nous en nous proposant de mettre à son répertoire un film nouveau qu'il a aussi, et dans l'actualité de la Semaine Sainte, puisque c'est la vie de Jésus, de la rencontre de Marie-Madeleine jusqu'à la résurrection, et qui s'appelle Le Roi des Rois, un film de Cécile B2000, à la façon d'un péplum, 3 heures d'histoire sainte.
Film de 1927, muet évidemment, mais en revanche, il n'est pas qu'en noir et blanc.
Effectivement, pendant le tournage du film est inventé ce qui deviendra la pellicule couleur. Et donc le début du film, la restauration est en noir et blanc au début, bien évidemment. Et on a retrouvé ces pellicules de film en couleur, donc la fin du film est en couleur. 3 heures de spectacle, une performance artistique, puisque Jean-François a décidé, pour ne pas briser l'action dramatique du film, de faire les 3 heures de spectacle continu.
Oui, donc là, c'est une performance physique également, on peut le dire. Et puis, le festival qui a relâche le vendredi saint.
C'est la tradition.
Le samedi 11 avril à 17h, concert dans l'ensemble vocal Unité de Christian Nadalet. Il va interpréter le Requiem de Verdi, c'est à la salle Jean Rodin de la cité Saint-Pierre. C'est un ensemble qui réside, lui aussi, dans notre région.
Oui, effectivement, dans la banlieue toulousaine.
Mais voilà.
Je ne me risquerai pas de dire où précisément, mais dans les faubourgs toulousains, Christian est un ami de longue date. Il dirige le chœur de Tarbes depuis quelques années et il est administrateur de notre festival.
Donc,
notre conseiller musique.
Magnifique Requiem de Verdi, là, je pense que les gens peuvent noter ça parce que c'est une œuvre extraordinaire.
Dans une version tout à fait surprenante.
Oui, je ne sais pas de quel effectif il dispose. Mais...
Alors, justement, c'est une version qui a été complètement révisée par un compositeur allemand, un compositeur actuel, donc pour ensemble de chambres, dans un instrumentarium aussi improbable que surprenant, piano, marimba, cor, contrebasse et percussion. Pour tout vous dire, j'avais demandé à Christian un Requiem de Brahms, mais ce qui m'a séduit dans sa proposition de Verdi, c'est cet aspect musique de chambre pour laquelle on milite et on travaille depuis 10 ans avec le chœur de chambre de Lourdes.
Voilà, donc là, ce sera une des surprises, sans doute, du festival pour ceux qui vont écouter et qui connaissent la version, entre guillemets, classique de ce Requiem de Verdi. Et enfin, donc, clôture du festival le lundi 13 avril à 17h. Donc, il y a relâche aussi le dimanche, je n'ai rien oublié. Lundi 13 avril à 17h, Abbatiale Saint-Savin. Comme la tradition le veut, vous avez programmé le baryton Philippe Estef, accompagné au piano par Étienne Manchon et avec une récitante, Marie Tardieu. Il va interpréter Dichter Liebe de Robert Schumann. Alors, très belle œuvre, très beau chanteur que Philippe Estef, qu'on a d'ailleurs entendu assez récemment à Toulouse. Serge Chosy, vous l'avez entendu, oui, dans l'annonce faite à Marie.
Exactement, la création dans l'opéra de Marc Bleuze. Oui, absolument. Donc, vraiment grand chanteur, donc tout cela promet.
Une chose tout de même, l'Abbatiale Saint-Savin, pour les gens qui ne connaissent pas, ça se trouve où exactement?
Donc ça se trouve dans la vallée d'Argelès, la vallée des Gaves, un petit peu au-dessus d'Argelès, à une grosse dizaine de kilomètres de Lourdes.
Et Philippe Estef, ça sera une première pour lui?
Alors c'est une première pour le festival, oui.
Donc, parle du festival, bien sûr.
Effectivement, c'est une première. J'ai eu la joie de lui faire chanter son premier Requiem de forêt il y a quelques années, au festival qui était dirigé par son papa, les Nuits en Armagnac. Nuit musicale en Armagnac.
Oui, parce qu'il est originaire de Taquitaine, je crois, Philippe Estef. C'est ça. S'il est bordelais ou...
Famille,
pas loin, en tout cas.
Voilà. La famille est originaire d'Astafort et Lectoure. Grand-père de Philippe était...
Nord du Gers, c'est presque le Lot-et-Garonne.
C'est ça. Et donc, voilà. Et donc, c'est une première pour Philippe et une première très émouvante pour moi parce que son papa a souvent chanté au festival, Jean-François Gardeil. A beaucoup chanté au festival avec des ensembles prestigieux et entre autres William Christie et les Arts Florissants dont il était un des membres de la première équipe.
Bon sang ne saurait mentir, comme on dit. Voici la belle voix de baryton de Philippe Estef dans cet extrait de Dichter Liebe de Robert Schumann. C'est le tout début.
Meine Sinnen unverlangen. meinen Tränen sprießen viele blühende Blumen hervor. Und meine Seufzer werden ein
Philippe Estève qui chantait Dichter Liebe de Robert Schumann, comme il le chantera lundi 13 avril à 17h à l'abbatiale Saint-Savin en clôture du Festival de Lourdes 2020. Voilà pour cette 53e édition. Nous allons maintenant revenir sur l'actualité plus proche avant la fin de cette émission, notamment avec le prochain concert proposé par la Saison des Arts Renaissants. Il a lieu ce mercredi 26 février à 20h30 au Temple du Salin et c'est le jeune ensemble Tic Tactus qui va s'y produire une première à Toulouse. Avec quel programme, Serge Chosy?
Alors d'abord, il faut rappeler que c'est un ensemble qui a été créé en 2012, donc relativement jeune, par Lucille Richardot qui est mezzo-soprane, Stéphane Petitbon et Olivier Labbé qui sont luthistes et théorbistes, ce sont les trois créateurs, mais l'ensemble peut se démultiplier avec d'autres musiciens qui viennent rejoindre les trois créateurs. Et donc le programme de ce concert est tout à fait original, c'est un programme de musique anglaise qui s'appelle Mad Songs, c'est-à-dire des chants de folie. Et donc ce sont des œuvres évidemment de l'époque baroque anglaise, avec surtout des œuvres de Henry Purcell et de John Blow, mais également de John Cooperario, de John Eccles, et puis anonymes, quelques anonymes aussi. Donc, un programme tout à fait original, avec Lucille Richardot comme mezzo-soprane, le ténor américain Jeffrey Thompson, et donc d'autres musiciens comme une gambiste, les deux luthistes et théorbistes de la création et un claveciniste qui s'appelle Brice Sailly qui joue donc clavecin et ottavino. Donc vraiment un concert intéressant avec un programme tout à fait original.
C'est un programme très original et puis l'occasion de découvrir cet ensemble Tic Tactus. Oui. Je suis à peu près certain que c'est la première fois qu'on les entend à Toulouse. Donc merci aux Arts Renaissants de nous le permettre. Voici un petit extrait de ce programme Mad Songs from Rosie Bowles d'Henry Purcell, interprété par l'ensemble Tic Tactus. Court extrait du programme Mad Songs avec From Rosie Bowles d'Henry Purcell, une des pièces que va interpréter l'ensemble Tic Tactus lors de son concert du mercredi 26 février à 20h30 au Temple du Salin pour le compte de la Saison des Arts Renaissants. On arrive vraiment au terme de cette émission. Peut-être Serge, un mot rapide sur le concert du 28 février de l'Orchestre du Capitole à la Lograin avec un chef singapourien et un programme de symphonie.
Oui, un programme tout à fait étrange puisqu'il associe Mozart et Bruckner qui n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre, mais donc le chef Kachung Wong, qui est né en 1986, un jeune chef, donc dirigera la symphonie numéro 25 de Mozart, celle qu'on appelle la petite symphonie en sol mineur, pour la différencier de la 40e, qui est dans la même tonalité, et puis la 9e et dernière symphonie d'Anton Bruckner, qui est une œuvre conçue et dédiée avec candeur tout simplement à Dieu. Voilà, ce sera le programme du concert de ce 28 février.
Merci d'avoir été clair et concis, parce que nous sommes malheureusement arrivés au terme de ce numéro. Il est temps pour moi de vous remercier tous d'y avoir participé. Merci à mes amis Anne-Marie Chouchon et Serge Chosy. Et merci à Arnaud Penet d'avoir fait le déplacement de Lourdes pour nous présenter la programmation de la 53e édition de l'événement dont il est président, le Festival de musique sacrée de Lourdes, qui se tient donc cette année du 4 au 13 avril à Lourdes et dans sa région. Que ma voix demeure, c'est le sous-titre de cette édition. De très beaux concerts en perspective, que ce soit dans le off ou le IN avec de magnifiques ensembles et musiciens. Vous pouvez trouver tous les renseignements, le détail de la programmation, faire vos réservations et acheter vos places en ligne sur le site www.festivaldelourdes.fr. À part ça, je signale ce mardi 25 février à 18h30 au musée des abattoirs de Toulouse le récital de Vincent Martinet, grand espoir du piano toulousain en qui nous croyons beaucoup ici à Mélomanie. Il va jouer Wanderer, la fantaisie en ut majeur de Schubert et la Suisse des années de pèlerinage de Liszt. Renseignements et réservations sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Mercredi 26 février à 20h30 au Temple du Salin, donc, concert de l'ensemble Tic Tactus qui va interpréter son programme Mad Songs dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Les réservations et achats de places en ligne sont à faire sur le site www.art-renaissant.fr. Jeudi 27 février, première représentation de l'Élixir d'amour, l'opéra de Gaetano Donizetti au Théâtre du Capitole. Il y en a 6 autres les 28 et 29 février, puis les 1er, 3, 4 et 6 mars. Une belle production qu'il faut aller découvrir en réservant et en achetant vos places sur le site www.théâtreducapitole.fr. Et enfin, vendredi 28 février à 20h, concert de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains, sous la direction du chef singapourien Kachung Wong, avec 2 symphonies au programme, la 25e de Mozart et la 9e de Bruckner. Un très beau et très consistant programme pour lequel vous pouvez vous renseigner, réserver et acheter vos places sur le site www.onct.toulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de nous rester fidèles. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.